Mais dans Parlons-en tout de suite, un autre récit de captivité, celui d'Olivier Dubois, ancien correspondant de Libération au Mali. Il a passé 711 jours aux mains d'Al-Qaïda. Prisonnier du désert, c'est le nom du récit qu'il a fait de ces presque 2 années privées de liberté, 2 années au cours desquelles il n'aura jamais cessé d'être ce qu'il est viscéralement, un journaliste. Bonjour Olivier Dubois, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Olivier Dubois.
Bonjour.
Merci d'être sur ce plateau. Bienvenue à France 24. Vous êtes journaliste, prisonnier du désert. 711 jours aux mains d'Al-Qaïda sort aujourd'hui chez Michel Lafon. Ça fait presque 2 ans que vous avez été libéré. C'était le 21 mars 2023. Après presque 2 ans de détention, comment ça va aujourd'hui ?
Écoutez, ça va mieux, j'ai pu écrire ce livre. C'est thérapeutique d'écrire un livre, ça m'a permis de revisiter tout ce qui s'est passé, d'arriver à le coucher sur papier et de le rendre disponible pour les gens que ça intéresse et qui veulent le lire. Donc pour moi, c'est fait, c'est un soulagement.
Vous avez retardé ce moment de l'écriture ?
Il y a eu des difficultés, j'avais du mal à repasser tous les événements et puis à les détailler. Puis c'était peut-être pas absorbé, pas digéré chez moi, donc oui, ça a pas été facile.
Vous avez été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, alors que vous deviez interviewer un chef djihadiste, l'émir d'Al-Qaïda au Sahel. Ce qui est assez singulier, c'est que pendant toute votre détention, vous êtes en colère bien sûr d'avoir été enlevé, mais en colère aussi d'une certaine façon d'avoir été trahi, parce que vous aviez tout bien organisé pour que ça se passe bien.
Alors, on a l'impression d'avoir tout bien organisé, on ne sait pas. Mais on essaie de border au maximum les choses pour que ça se passe bien. Et oui, oui, il y a une colère parce que j'ai une lettre d'invitation, j'ai l'impression de m'être entendu avec eux, ils vont me kidnapper. Donc ça prouve qu'ils n'ont pas de parole. Et puis surtout, moi, ça me renvoie, si vous voulez, à moi, parce que je me suis quelque part jeté dans la gueule du loup. Et c'est dur à digérer. Ouais.
Vous le savez quand même que c'est un peu risqué ce que vous faites à ce moment-là.
Oui.
Dans l'avion qui vous emmène à Gao, vous échangez des messages avec votre femme, avec votre compagne qui s'appelle Déborah, et vous lui écrivez « Si je me fais kidnapper, tu pourras écrire un best-seller qui s'appellerait « Où es-tu mon amour ?» Ça ferait un joli titre. »
On en plaisante, je pense que c'est pour conjurer le sort, c'est vrai qu'on en plaisante. J'ai ça quand même un petit peu dans ma tête, mais encore une fois, oui, j'ai l'impression d'avoir assuré le truc. J'ai confiance, peut-être une confiance excessive dans mon fixeur, j'ai l'impression que les choses vont bien se passer. Et ça va pas être le cas.
Aujourd'hui, sur les circonstances de votre enlèvement, vous avez des doutes, mais pas de certitude ?
J'ai des forts doutes. Hein. J'ai des
sur
forts
votre fixeur, notamment ?
Après, j'ai pas de preuves, c'est pas vérifié. Mais oui, oui, j'ai l'impression que j'ai été trahi, oui.
Vous avez passé 711 jours, c'est presque 2 ans, aux mains du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda dans le nord malien, dans le désert. Vous le racontez, vous changez régulièrement et de lieu et de geôlier. Ce qui frappe d'abord quand on vous lit, c'est la mémoire extraordinairement précise que vous avez des lieux, des dates, des visages, des noms.
Bah, on garde ça en mémoire et puis moi je prenais des notes, il y avait une volonté de mettre tout ça sur papier. Je commençais toujours par une date et puis ce qui s'est passé, l'événement, la personne, l'information qu'on m'a donnée. Donc évidemment ça m'a aidé, ça a été du matériel assez incroyable à utiliser pour écrire le livre.
Vous avez écrit sur des bouts de papier, des bouts de carton.
Ce que je trouvais, ouais, tout à fait. Bah, j'avais pas leur autorisation. Ils savaient que j'étais journaliste. Déjà, ils voulaient pas me parler. Puis j'avais pas l'autorisation. Donc, dès qu'on avait des emballages, on nous donnait une boîte de lait, je déchirais. Dès que j'avais un stylo, vous voyez, on fait comme un puzzle, un peu. Ah, j'ai un stylo, je garde. Bah, tiens, là maintenant, j'ai un emballage. Ok, ça va me permettre d'écrire. C'est comme ça que ça se passait. Et pendant 700 jours, donc j'ai un brique de broc d'emballage, de morceaux de papier, de ce que je trouve, et qui vont constituer les notes que je vais concilier, les informations que j'ai conciliées sur papier.
Et vous faites croire à vos geôliers que c'est des petites notes comme ça, des recettes de cuisine.
Oui, j'avais organisé quelque chose en fait. D'autre part, je faisais des listes de tout ce que j'aimais. Donc je mettais ces listes en avant, bien en évidence, pour qu'ils les voient. Et puis c'est ce qu'ils ont trouvé. Les deux fois où ils trouvent des notes, ils trouvent des listes. Mmh. Ils ne trouvent pas les véritables notes.
Vous êtes otage, bien sûr, mais vous êtes journaliste presque avant toute chose. Et ça vous vient assez vite pendant votre captivité. Vous vous dites que peut-être ce qui peut vous sauver, c'est d'être journaliste, c'est de documenter, y compris d'aller poser des questions à vos geôliers, et pas forcément des questions qu'ils ont envie d'entendre, prendre un peu de risque. Vous leur dites aussi parfois un peu leurs 4 vérités. Mmh. C'était important pour vous de rester journaliste ?
Il fallait surtout que je m'occupe l'esprit, en fait.
Ouais.
Il fallait que je me lève avec un but, il fallait pas que je me lève en me disant, là, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont me faire ? Pas que je me lève avec, entre guillemets, un état d'esprit d'otage, quoi, quelqu'un qui subit la... qui subit les choses, même si on les subit, mais il fallait que j'inverse ça. Et le fait de continuer de me dire que je continue à travailler, que je suis dans un reportage, évidemment, ça change tout. Ça inverse le processus. Et c'est ce qui m'a permis d'avancer. Et sur le fait de les provoquer pour avoir, susciter les conversations, pour avoir des confidences, il fallait un petit peu leur rentrer dedans. Mmh. Je trouve que je couvrais ces sujets-là avant. Donc j'avais des informations. Donc j'allais un petit peu, histoire de les provoquer.
Ça vous a valu quelques moments désagréables, quelques punitions, c'est comme ça que vous les appelez?
Oui, alors les punitions, c'est pas tellement sur les conversations. Ça vient un peu sur mes actions. Mmh. Parce qu'au bout d'un moment, je vais pas me résoudre à rester avec eux. Mmh. Il va falloir que je crée l'événement, que je crée quelque chose et je vais rentrer dans une phase, une obsession de l'évasion.
Dans cette volonté de continuer à enquêter, vous vous dites que de là où vous êtes, vous en apprendrez peut-être sur ce qui est arrivé à nos confrères de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qui ont été assassinés dans le Nord Mali en 2013. Vous avez appris des choses?
J'ai réussi à obtenir leur version. On va dire. Et leur version, elle est assez simple, hein, tout le monde la répète. L'escalier, c'est qu'en gros, il y a eu une intervention française et que cette intervention a précipité la mort des deux journalistes. C'est ce qu'ils me disent à peu près tous, avec des petites différences. Est-ce qu'elle est aérienne? Est-ce qu'elle est terrestre? Tous parlent d'un aéronef, d'un hélicoptère et d'une intervention, en tout cas, qui a précipité leur mort.
Je renvoie au livre, mais pour pas tout dévoiler, il s'avère que l'un de vos geôliers a une histoire singulière avec l'assassinat.
Une connexion spéciale avec cet événement.
Avec l'assassinat de nos deux confrères. Je renvoie au livre dans un retournement d'histoire assez dingue que vous racontez extrêmement bien. Alors, il y a cette volonté de continuer à enquêter, à poser des questions, à comprendre aussi ce qui anime ces hommes, qui sont parfois très jeunes et qui sont d'ailleurs pétris de contradictions. Vous racontez qu'ils vous demandent est-ce que vous avez vu les nouvelles séries, les nouvelles saisons des dernières séries.
L'un d'eux me demande ça, c'est vrai.
Game of Thrones notamment.
La Casa des Papel. Voilà. J'avais pas vu la Casa des Papel, je connaissais pas la série. Donc c'est lui qui me l'apprend.
Et donc à part ça, on se demande bien sûr comment est-ce que vous avez tenu pendant 711 jours. Vous faites beaucoup de bagua, c'est un art martial.
Bagua zang, c'est un art martial chinois, exactement. Et qui est très bien parce que ça, il sculpte le mental, il renforce le corps aussi. Et puis ça met du temps, vous savez, c'est comme ces disciplines chinoises très longues, il faut beaucoup de persévérance. Et là j'ai du temps. Et donc je vais vraiment faire un focus là-dessus. Tous les jours, plusieurs fois par jour aussi.
Au bout d'un moment, vous finissez par avoir accès à une cuisine et puis à des ingrédients qui vous permettent de faire jusqu'à des donuts en plein milieu du désert pour le plaisir non fin de vos geôliers d'ailleurs. Et puis au bout d'un moment, il y a la présence d'un autre otage, un Sud-Africain, qui arrive dans un des camps où vous êtes maintenu et qui d'une certaine façon... habitera aussi une grande partie de votre détention.
Voilà. Alors, je vais pas avoir accès à une cuisine. Je vais pouvoir faire la cuisine.
Oui.
On est dans le désert.
Oui, bien sûr.
Ouais. Mais c'est vrai, c'est le 2 août 2021. La date, elle est précise dans ma tête parce que je suis plus tout seul. Je rencontre Reert Jacobus van Deventer, c'est un Sud-Africain. Et on va pouvoir partager, s'aider, s'épauler dans cette captivité. Et ça change tout. Alors qu'avant, j'étais tout seul. Je vais vraiment penser à tout. Et voilà. Là, ça va tout changer.
Aussi parce qu'il parle la langue que vous ne parlez pas.
Lui, ça fait 4 ans malheureusement qu'il est là. Donc il a une trousse de... Enfin, plus qu'une trousse de survie. Moi, j'avais une trousse de survie pour parler avec eux. Mm. Lui, il arrive à échanger avec eux. Ça va être mon traducteur. Hein. C'est via lui que les questions que je leur destine... Enfin, qu'il va poser les questions que je leur destine. Sans lui, j'aurais pas pu avoir nombre des informations que j'ai dans mes notes.
Ouais, quand vous le rencontrez, ça fait un peu plus de 3 ans, presque 4 ans qu'il est, otage. Et d'ailleurs, vous vous dites quand il vous dit ça, mais c'est pas possible. Moi, je ne peux pas rester aussi longtemps.
Ça me fait peur, parce que je me dis, mais alors, est-ce que c'est ce qui t'attend? Puis comment a-t-il pu rester autant de temps? Enfin, je veux dire, pourquoi a-t-il pas réagi? On en parle d'ailleurs, il me dit, il aurait pu essayer de s'évader, puis il tente pas, il n'ose pas, il se dit que ça va pas marcher. Il aura raison, hein. J'ai tenté, ça n'a pas marché. Mm. Dans le désert, c'est difficile de s'évader.
Oui, vous dites que c'est le fait de vous rencontrer qui lui redonne un peu espoir sur le fait que ça va peut-être...
Disons qu'on est dans deux dynamiques totalement différentes. Lui, il est résigné, puis moi, je suis en combat, quoi. J'ai vraiment envie d'inverser les choses. Donc, il y a un choc quand même. Hein. Au départ, il me regarde comme un bleu qui est surexcité, si vous voulez. Et puis, ça devient un peu contagieux quand même, même si c'est moi qui le rejoindrai sur la fin. Au bout d'un moment, je vais aussi me calmer par rapport à ce désir de m'évader et essayer de trouver notre porte de sortie plus calme, on va dire, plus réfléchie.
Il va être libéré fin 2023. Alors précisément, pendant une grande partie du livre, vous êtes obsédé par l'idée de vous évader. Ouais. Vous tentez à plusieurs reprises, sauf que le désert est trop fort.
Le désert, le manque d'organisation et puis certainement la peur d'aller jusqu'au bout. Parce qu'une fois que vous franchissez le camp, vous êtes dans le désert, vous dites, mais si je rate, qu'est-ce qui se passe demain matin quand ils ne manqueront pas de me retrouver en partant à moto? Et ça fait peur. Donc on annule, je pense que j'ai annulé les deux premières fois quand même pour ça. Il n'y avait pas la volonté d'aller jusqu'au bout. Et puis la quatrième fois, c'est la bonne et je me ferai rattraper le lendemain.
Et là, vous avez très peur.
Ah oui, là j'ai eu très peur. J'ai eu très très peur. Ouais, là. Et ils m'ont signifié après, j'explique ça dans le livre, que si je recommençais, c'est la mort. Et ça va quand même me faire réfléchir. Mais l'événement qui fait que je vais plus vouloir m'évader, en tout cas pas dans un proche avenir, c'est le fait que deux Touaregs en prison veulent s'évader et qu'eux échouent.
Parce que vous vous retrouvez un moment dans un campement dans lequel il y a...
Voilà, on a été dans différents endroits, on va dans une prison, il y a des Touaregs qui sont là, ils s'évadent et ils sont récupérés comme moi le lendemain.
Alors qu'eux connaissent très bien le désert.
Ils connaissent le coin, ils savaient exactement où ils étaient, ils parlent la langue. Là, c'est le coup près. Vous dites, alors si eux ne réussissent pas, moi, j'y arriverai pas.
Et vous finissez par abandonner cette idée de vous évader.
Voilà, ou du moins la retarder. Enfin, je me dis, il faut mieux que je connaisse l'environnement. Peut-être dans 2-3 ans, si je suis toujours vivant, je retenterai. Il faut trouver notre porte de sortie, en tout cas.
Vous avez changé, on le disait plusieurs fois, de localité dans une espèce de ballet organisationnel assez fou. D'ailleurs, les geôliers se succèdent. Vous êtes baladé d'un camp
tout
à un autre.
Tout ça est rodé. C'est très, très rodé. Tous les 15 jours, les gardiens changent. Il y a une chaîne logistique qui est très rodée aussi. Non, ils ont l'habitude. Ils savent ce qu'ils font, ça c'est sûr.
Parmi les choses qui vous sont insupportables, il y a cette chaîne qu'on n'attache pas tout le temps, mais régulièrement, le jour, la nuit, à vos jambes. Et vous dites dans le livre que vous avez l'impression viscérale de revivre ce que vos ancêtres esclaves ont dû endurer.
Ouais, c'est un peu spécial. Enfin, y a beaucoup d'idées qui vous traversent, mais je pense à ça, la chaîne, l'esclavage. Je me dis, c'est dingue, tu dois avoir des parents antérieurement qui ont certainement été enchaînés, puis toi, tu te retrouves comme ça, enchaîné, c'est quand même assez dingue. Et il y avait un truc comme ça, parce qu'ils étaient un peu fainéants, donc ils nous balançaient les clés pour nous enchaîner. Et moi, je refusais toujours. Le matin, quand ils nous balançaient la clé pour enlever la chaîne, ça marchait. Mais s'ils me balançaient la clé pour m'enchaîner moi-même, c'était hors de question. Et j'ai toujours mis un point d'honneur à ne jamais m'enchaîner. Ça, je ne pouvais pas.
C'est un désert au-dessus duquel il y a des drones. C'est un désert qui est surveillé à l'époque, bien sûr. Ouais. Comment est-ce que vous expliquez qu'on ne vous ait jamais... vu, repéré, vous dites qu'avec votre co-otage sud-africain, de temps en temps, quand vous entendez un objet qui vole, vous faites des grands signes, vous essayez d'écrire SOS dans le sable.
Oui, ouais. On ne comprend pas non plus. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ne nous ont pas détecté, en tout cas, on ne le sait pas. Mais ça n'a pas mené à quelque chose de visible qui montrerait qu'on a été détecté, qu'on a été vu. Mais j'ai l'impression qu'on a été vu quand même. Ça passait au-dessus, vous agitez les mains. Je sais que Rert avait des tatouages ici, il les montrait. On essayait vraiment de faire des signes pour qu'ils puissent nous voir. Et bon, voilà. Et sur la fin, il faut que je rajoute ça, on a peur, on a arrêté ça, parce qu'une intervention, il nous explique que ça peut mener à notre mort, et on n'a plus très très envie de signaler qu'il y ait une intervention.
Vous ne le dites pas dans le livre, est-ce que c'est par pudeur ou parce que vous ne voulez pas le raconter? Vous ne racontez pas des moments d'immense désespoir? Ça ne vous a pas...
Vous voyez, on me dit ça, alors c'est marrant, moi j'ai l'impression, je suis quelqu'un d'assez pudique, je ne parle pas trop de mes états d'âme, et j'ai essayé de mettre ça dans le livre, et on me fait cette réflexion souvent, donc j'y suis peut-être pas arrivé, ou j'en ai pas assez mis, où il y a une autre attente de la part du lecteur.
Non, pas du tout, mais on peut justement, on est plutôt impressionné par votre capacité à endurer, quoi, à ne pas sombrer.
Vous avez des moments... bien sûr qu'il y a des moments où on flanche en silence, dans le noir. Même j'étais avec Rert, on se tourne et puis on déguste dans son coin. Mais oui, il y en a eu, évidemment. On n'est pas un roc, on n'est pas de marbre. Et il faut garder une vitrine face à eux. Et puis après, on se retrouve avec soi-même, en fonction de ce qu'il y a eu, en fonction de ce qu'on a vécu. Donc voilà.
Au bout d'un moment, c'est très important dans votre captivité et c'est extraordinaire à quel point c'est quelque chose de commun dans le récit de beaucoup d'otages et notamment d'otages français, d'ex-otages français. Vous finissez par obtenir une radio, radio qui vous permet de capter RFI et vous entendez la voix, entre autres, de votre famille, de votre compagne, de vos enfants, les émissions qui vous sont consacrées, les rappels de votre captivité tous les 8 du mois. Comme on l'a fait sur France 24, je vous propose d'écouter l'un de ces appels qu'on avait lancés. C'était, je crois, le premier hiver de votre captivité. Et puis ce 8 novembre 2022 marque le 19e mois de détention pour Olivier Dubois, notre confrère retenu otage au Mali. Au nom de la liberté de la presse, en soutien à sa famille et à ses proches, nous aurons chaque mois une pensée pour lui, et ce, jusqu'à sa libération. Voilà, pardon, c'était en novembre 2022 et jusqu'à votre libération, tous les 8 du mois, Olivier Dubois, nous avons, et nos confrères de RFI bien plus que nous encore, appelé à votre libération. Cette radio, RFI, ces messages, ils vous ont sauvé ?
Ah ben c'est d'une aide, ça génère de l'espoir. Déjà, à chaque 8 du mois, vous entendez votre famille, voilà, ça vous remplit d'espoir. Et puis moi, je me sentais seul avant ça. Et ça me fait comprendre qu'il y a des gens qui sont mobilisés, que ma famille est derrière moi et que peut-être il y a une porte de sortie. On ne veut pas trop y croire, mais en tout cas, c'est là et ça fait du bien en captivité.
Ouais, vous avez pris conscience de l'ampleur de la mobilisation qui existait en France, bien sûr de vos proches, mais aussi de toute la profession, voilà. De votre journal Libération, des journalistes.
Au départ, on se dit, bah, il va falloir que je sois créatif, il va falloir que je trouve une porte de sortie moi-même. Et là, on se dit, voilà, il y a ce soutien. Il est à distance, mais il a son impact.
C'est sur RFI qu'écoute aussi d'ailleurs vos geôliers. Hein, vous racontez que le journal de 18h est un rendez-vous très important
pour
l'un d'entre eux.
Pour un certain niveau, ils écoutent, ils parlent français et ils adorent écouter RFI.
C'est sur RFI donc que vous entendez quelques jours avant votre libération celui qui nous a rejoint, Wassim Nasr. Bonjour Wassim.
Bonjour.
Journaliste à France 24, vous connaissez bien tous les deux, spécialiste des mouvements djihadistes. En ce début du mois de mars 2023, vous interrogez, notamment à propos d'Olivier, l'émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Oui, effectivement, donc je pose la question, parce qu'on devait poser la question, et pour comprendre quelle est la position, en tout cas, officielle du groupe vis-à-vis de tout ce qu'on entendait sur la libération. Après, bon, on sait toujours comment ça se passe, il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup d'intermédiaires, beaucoup d'escrocs, hein, disons-le, beaucoup de gens qui vendent de l'espoir, etc. Donc, avoir un accès et poser la question aux premiers concernés, c'était intéressant et c'était fort utile, on va dire, pour que les gens comprennent et pour que les soutiens d'Olivier comprennent aussi où en sont les choses de la bouche du chef du groupe qui détenait Olivier.
Et à ce moment, il vous dit la balle est dans le camp de la France.
Il me dit très clairement, la balle est dans le camp de la France. Après, on parle du chef d'ACMI, donc même si c'est un groupe djihadiste, les propos sont très politiques et nuancés. Donc la balle est dans le camp des Français. Il s'adresse donc évidemment aux Français, mais il s'adresse aussi aux JNIM et aux gens qui détiennent directement Olivier. Donc c'est une sorte, on va dire, de feu vert ou d'acceptation qu'on est vraiment aux dernières étapes, quoi. Et après, Olivier, peut-être qu'il vous...
Oui, vous allez être libéré quelques jours plus tard.
Pour moi, ce qui est en train de raconter, c'est un événement important. On est dans la nuit du 5 au 6 mars 2023, et j'entends ça, moi, au moment où c'est diffusé sur RFI. Et ce que je comprends dans mon coin, c'est que la balle est dans le camp des Français. OK, il n'y a aucune négociation, il n'y a rien. Mais 24 heures plus tard, enfin le lendemain matin, un pick-up arrive avec trois djihadistes, et c'est là où on me fait entendre un audio du numéro 2 de l'organisation Sedan Aguita me disant « Inch'Allah, si tout va bien, dans 14 jours, tu seras libéré ». C'est totalement contradictoire avec ce que j'ai compris de ce que j'ai entendu. Ouais.
On vous donne cet horizon de 14
jours. Je sais plus quoi penser.
Vous y croyez ? Vous voulez pas
on a envie d'y croire. Évidemment, on a envie d'y croire. Puis en même temps, on sait qu'il y a des otages à qui on a annoncé ça et qui n'ont pas été libérés. Ouais. Et ça, je sais que ça peut me dézinguer. Ça peut totalement me coucher au sol. Donc je sais pas trop. Je ne sais pas quoi croire. Je ne sais pas quoi penser. Et pendant 14 jours, ça va être très très spécial.
Et finalement, vous êtes effectivement libéré et vous finissez. Et ça, c'est extraordinaire, par obtenir l'interview. Pour laquelle vous avez été...
Il y a deux choses. J'obtiens l'interview pour laquelle j'ai été kidnappé. Je n'obtiens pas l'interview que j'ai demandé pendant ma captivité, qui était le chef de l'organisation, l'émir Osel Yagagrali. Mais bon, je m'en contente. Et j'ai le numéro 2 aussi, c'est Sedan Aguita, lors de cette interview.
Preuve que vous ne lâchez rien.
Oui, parce que là, pour le coup, j'ai été... Oui, il y a eu un petit côté revanchard aussi, quand même. Hein. J'ai passé 2 ans avec eux. Ils m'ont volé du temps. Ils m'ont volé de ma vie. Il fallait qu'il se passe quelque chose.
Qu'est-ce que vous avez appris sur ces djihadistes que vous ne saviez pas déjà ? Vous les connaissiez déjà un peu avant votre détention. Qu'est-ce que vous avez appris ?
Il y a ce que j'ai constaté. Ils sont vraiment enracinés. On est passé dans beaucoup d'endroits qui détiennent. La charia est appliquée. Alors, plus ou moins partiellement dans ces endroits-là. Et c'est surtout, moi, l'accueil que leur font les populations. C'est-à-dire, les populations leur sont acquises. Il y a énormément de sympathisants. Alors, on était, je pense, dans la zone de Tinesako à Beibara. Je vais apprendre aussi leurs objectifs à travers des entretiens, à travers des conversations avec eux. Ce qu'ils veulent faire pour ce pays. Enfin, eux, l'Azawad, les intéresse pas. C'est la capitale Bamako. Pour eux, elle tombe. Alors, à l'époque, ils me disent dans 5 ans, donc ça voudrait dire 2026, 2027. C'est la prise du pays. Et puis, comme on le voit, une extension au Sahel, et puis au-delà. C'est un projet. Hein. Chaque franchise amène sa pierre, pose sa brique à l'édifice. Et le but, hein, c'est de vraiment imposer la foi en Allah partout.
Wassim, ces dernières années, la force de frappe du Jnim n'a fait que grandir dans cette région ?
Oui, effectivement, et c'est à la faveur de plusieurs choses. Donc, ce que dit Olivier est très intéressant, c'est qu'ils ont gagné les cœurs et les esprits, de force ou de gré. Ça, il faut aussi le préciser. Ça veut dire qu'ils n'hésitent pas à utiliser la force et la violence vis-à-vis des populations locales, des fois, quand ça s'impose à eux. Mais, à la différence, par exemple, de l'État islamique, ils font aussi de la politique. Ils vont aussi voir les notables. Et ils essayent, quand Olivier parle d'application de la charia, on n'est plus du tout dans les couper les mains, couper les têtes. C'est une application plutôt qui est déléguée aux chefs religieux locaux, pour la simple raison aussi qu'ils n'ont pas assez d'hommes encartés, entre guillemets, pour faire appliquer la charia en leur nom directement. On peut donner plein d'exemples, on va pas rentrer dans les détails. Donc, ils étaient obligés de, on va dire, assouplir leur positionnement. Et ils ont vu que ça a marché au Nord Mali, donc ils l'ont dupliqué au centre, puis du centre Mali au Burkina, puis du Burkina au Niger et au Bénin maintenant. Donc, et ça se fait, tout ça se fait pendant une guerre sans merci avec l'État islamique. Donc ils sont devenus l'acteur le moins radical en comparaison avec l'État islamique, avec lequel ils sont en guerre ouverte depuis maintenant 2019. Et d'ailleurs, fait intéressant, c'est que j'ai eu l'occasion dernièrement d'envoyer des questions à Amadou Koufa, donc chef de la Katiba de Massina, numéro 2 du Jnim, second Diyad Agali, première fois qu'il parle à un média. J'ai envoyé 17 questions, elle a répondu à 14 de ces 17 questions, et dans ses réponses, il parlait de résolution de conflits. Mm. Ce qui, par ailleurs, il l'a dit aussi après l'attaque de Bamako. Première audio de Koufa après l'attaque de Bamako, qui était une réussite pour eux, il faut l'admettre. Ils ont eu beaucoup d'échecs dans la capitale, mais là, c'était une réussite. Il a tout de suite parlé de résolution de conflits. Mmh. Donc, il n'est plus du tout dans la guerre messianique sans fin. Il y a des terrains, on va dire, de discussion et d'entente. Et c'est intéressant aussi parce que quand ça tient, ils le respectent. Mais il faut que ça tienne. Mais et plus on s'éloigne du centre, donc là aussi, c'est intéressant ce que disait Olivier, plus on s'éloigne du centre du pouvoir, donc qui est au Mali, du Jnim, plus ça devient moins organisé. Plus on a, par exemple, de massacres, comme le massacre de Barsalogo. Massacre de Barsalogo, là, pareil, le Jnim, pour la première fois, a répondu à Human Rights Watch avec une lettre où il expliquait pourquoi il a tué ces gens, parce qu'ils creusaient des tranchées, parce qu'ils travaillaient pour les militaires, et l'historique avec eux est très long. Donc on est dans une autre dynamique, peut-être on a des images qu'on peut voir rapidement, de l'attaque de Pama au Burkina Faso. Donc là, c'est arrivé le 23 du mois, c'était pas il y a si longtemps que ça, et on voit, peut-être qu'on pourra le voir, le nombre, déjà, de combattants. Donc les combattants, les rangs du Jnim renfloués à cause des exactions, Koufa lui-même l'a admis, il a pas dit c'est juste la force de mes prêches, il a dit les exactions commises par les Russes et par les milices et par les Maliens renflouent les rangs du Jnim. C'est très clair, et là c'est le rassemblement, on va voir les images de l'attaque aussi, pour comprendre avec quelle facilité ils prennent une ville, et c'est intéressant, Pama, parce que c'est pas loin de la frontière avec le Bénin et le Togo, d'où ils essayent de rayonner, en tout cas vers ces pays-là. Peut-être qu'on pourra voir les images de l'attaque.
Je ne sais pas si on peut voir les images, mais Olivier, sur ce qui vient d'être dit, je vous ai lu dans Le Point dire que le Jnim était en quête de respectabilité, et vous évoquiez même l'exemple syrien qu'on a connu il y a...
Oui, non, comme une
enfin, vous posiez la question,
une éventualité, en tout cas, une vraie volonté de conquête de pouvoir, ça peut être un des scénarios. Et c'est un peu tôt pour dire s'ils sont en quête de respectabilité, mais moi je dis ça par rapport au fait où on entend moins parler d'eux, par exemple pour les prises d'otages, pour ce genre de choses-là. Tu viens de parler aussi d'un... Il y a des changements en tout cas qui s'opèrent, et c'est observé attentivement. J'ai l'impression qu'il y a une transition.
En tout cas, l'exemple syrien, pour faire court, a fait la démonstration qu'un groupe, donc commandé par Al-Sharar, qui était Joulani, qui venait des rangs d'Al-Qaïda, n'aurait jamais pu prendre Damas sous la bannière d'Al-Qaïda. Et ils ont compris, là, le monde a vu, que les choix qu'a fait donc Joulani en son temps, contre l'État islamique et contre Al-Qaïda, et ce que j'avais appelé la troisième voie quand j'ai été le rencontrer à Idlib en 2023, donc la troisième voie sortie du djihad global et du terrorisme, que c'est quelque chose qui peut marcher. Donc à ce moment-là, où on parle, au sein du Jnim, il y a des discussions pour dire, est-ce qu'il est opportun de rester sous la bannière d'Al-Qaïda ou de quitter Al-Qaïda. On ne sait pas comment ça va aboutir, mais il y aura des changements qu'on voit déjà. Par exemple, ils ont arrêté de se référer à Al-Qaïda dans leur communication. De un. De deux, les questions que j'ai envoyées à Koufa, il a répondu dans une compile audio, aucune référence à Al-Qaïda, du début à la fin, pas de nashid d'Al-Qaïda, plutôt un nashid islamique normal, et même, il a, les questions auxquelles il a refusé de répondre, c'était les questions qui concernaient Al-Qaïda. Donc ce sont des indications, ça réfléchit, ouais. Disons, mais on ne sait pas encore, comme l'a dit Olivier, comment ça va se faire, sachant qu'en Syrie, casser avec Al-Qaïda, c'était en 2017, et la prise de Damas, 7 ans plus tard. Donc il est très tôt pour extrapoler, oui, mais il y a des choses qui se passent.
C'est le temps long. Merci beaucoup, Hassim, d'être venu nous recontextualiser tout ça. Et c'est assez émouvant de vous avoir tous les deux sur ce plateau, vous qui vous connaissez bien aujourd'hui, mais que vous entendiez du coup depuis le désert, Olivier Dubois, il y a quelques années. Vous avez arrêté de travailler depuis votre libération. Vous dites que votre captivité, pour autant, n'a pas altéré du tout votre amour pour le métier. Journaliste un jour, journaliste toujours.
Toujours, ça me va très bien. Oui, tout à fait. Pour le coup, oui.
On vous retrouvera bientôt alors sur le terrain nouveau.
Eh oui, je le souhaite.
Un autre terrain peut-être que celui-ci en tout cas.
Voilà.
Prisonnier du désert, 711 jours aux mains d'Al-Qaïda. Merci infiniment Olivier Dubois. Je peux dire quand même qu'au nom de toute la rédaction de France 24, on est très heureux de vous voir sur ce plateau.
Merci beaucoup.
C'est un livre absolument passionnant, je le disais, avec une hypermnésie qui force l'admiration. Merci infiniment.
Merci à vous.
D'être venu sur ce plateau chez Michel Lafon. Hassim, vous êtes ici chez vous. Merci beaucoup. Merci. D'être venu sur ce plateau. La suite de Parlons-en, juste après la pause, on reprendra la direction du Proche-Orient avec ses libérations d'otages israéliens et thaïlandais et ses libérations à venir de prisonniers palestiniens. À tout de suite.